Chapitre 12. Argent. Un accident retarda de quelques heures notre promenade du lendemain. Au milieu de la nuit, la vieille Zilla se trouva subitement indisposée. Les quelques remèdes que nous apportâmes à son mal eurent si peu d'effet qu'on fut forcé, vers le matin, d'aller chercher le médecin qui demeurait à quelque distance de Dymchurch. À son arrivée, il envoya prendre chez lui les drogues nécessaires. Il était plus d'une heure de l'après-midi lorsque, les remèdes ayant soulagé la vieille Zilla, nous pûmes enfin la confier aux soins des autres domestiques. Lucile acheva sa toilette avant moi. Nous partîmes. Mais à peine dépassions-nous la grille du jardin que nous entendîmes, de l'autre côté du mur, une superbe voix de basse-taille qui disait « Croyez-moi, cher monsieur, il n'y a pas la moindre difficulté. Je n'ai qu'à envoyer le chèque chez mon banquier à Brighton. » Lucile tressaillit et me saisit le bras. « Mon père, dit-elle, à qui peut-il parler ?»« Votre père a une bien belle voix, lui répondis-je en tirant de ma poche la clé de la grille. » J'ouvris et j'aperçus le père de Lucile et Dubourg qui se promenaient bras dessous comme de vieux amis. Monsieur Finch commença par presser sa fille dans ses bras. « Je n'ai reçu, ma chère enfant, ta lettre que ce matin, » et je me suis empressé de venir offrir mes consolations à M. Dubourg. Il m'incombait clairement, en ma qualité de recteur de la paroisse, de venir réconforter mon frère dans cette affliction. Je me suis senti un vrai besoin de tendre une main amie à ce jeune homme accablé par le sort. J'ai emprunté la voiture et le cheval d'un ami, et je suis parti tout droit pour les sables. Nous avons eu tous deux une longue et amicale conversation, et j'ai amené M. Dubourg ici. Il faut que M. Dubourg se regarde et que nous le regardions comme un des nôtres à partir d'à présent. Permettez-moi de vous présenter l'un à l'autre. Ma fille aînée, M. Dubourg. Il remplit cette cérémonie avec le plus grand sérieux et comme s'il était persuadé qu'Oscar et sa fille se voyaient pour la première fois. Je n'ai jamais vu d'homme aussi chétif que le pasteur de Dymchurch. Sa tête me venait à peine à l'épaule et son corps était d'une maigreur telle qu'on l'eût pris pour la famine en personne. Il aurait fait fortune à Londres en se montrant couvert de guenilles. Sa figure, fortement grêlée, était surmontée d'une tignasse de cheveux courts et drus qui se redressait sur sa tête comme les crins d'un balai. Son petit œil gris pâle avait une expression inquiète, furtive et avide à la fois, qui produisait une impression irritante et désagréable. Le seul avantage qu'il posséda consistait en une magnifique voix de basse-taille. On se demandait en l'entendant ce qu'avait à faire une pareille voix dans un corps aussi chétif. Et ces sons pleins et superbes qui sortaient de ce petit corps avaient quelque chose d'insupportable. Je ne puis vous donner de meilleure description de M. Finch qu'en lui appliquant la citation latine « C'était une voix et rien de plus ». « Madame Pratolungo, sans doute ». Continua-t-il en se tournant vers moi, charmé de faire la connaissance de la sage compagne et amie de ma fille. Vous serez des nôtres comme M. Dubourg, madame. Permettez-moi de vous présenter, Madame Pratolungo, M. Dubourg. C'est la partie ancienne du presbytère que vous voyez là, mon cher monsieur. Nous l'avons fait restaurer. Voyons, combien y a-t-il que nous l'avons fait restaurer? Ah, j'y suis, après les dernières couches de ma femme. Je découvris bientôt que M. Finch calculait le temps d'après les couches successives de Mme Finch. Vous en trouverez l'intérieur fort intéressant. Lucile, mon enfant, il a plu à la Providence de frapper ma fille de cécité, M. Dubourg. Oh, Providence, que tes desseins sont impénétrables. Lucile, nous voilà arrivés à l'aile affectée à ton usage. Prends le bras de M. Dubourg et précède-nous. « Fais les honneurs de la maison, ma chère enfant. Permettez-moi, Madame Pratolungo, de vous offrir mon bras. Je regrette de ne pas m'être trouvée au presbytère pour vous recevoir. Regardez-vous, je vous en prie, comme de la famille. » Il s'arrêta et abaissa sa prodigieuse main en émettant un grognement confidentiel. « Un homme charmant que M. Dubourg, je ne saurais vous exprimer combien il me plaît. Quelle triste histoire que la sienne !» « Vous me ferez plaisir, un vrai plaisir, madame, en cultivant sa connaissance. » Il prononça ces paroles avec une sollicitude pleine d'affection. Il me prit même la main, comme pour donner plus de poids à ce qu'il disait, et me la serra affectueusement. J'ai rencontré dans ma vie nombre de gens audacieux, mais l'audace de M. Finch, qui semblait vouloir s'attribuer tout le mérite d'avoir découvert notre nouvelle connaissance, et qui agissait comme si Lucille et moi étions parfaitement incapables d'apprécier sans son concours les qualités de Dubourg, cette audace, dis-je, dépassait tout ce que j'avais vu. Je me demandais avec Lucille quel pouvait être le motif secret de ce langage. Mais ce que j'avais ouï dire de l'homme par sa propre fille et les paroles que j'avais entendues de l'autre côté du mur me firent soupçonner que la conduite de M. Finch avait l'argent pour mobile. Nous entrâmes tous dans le salon. M. Finch était le seul parmi nous qui n'éprouvât aucun embarras. Il ne quitta pas un instant sa fille et Oscar. « Ma chère enfant, montre donc ceci, montre donc cela à M. Dubourg. Ma fille possède telle ou telle chose, etc., etc. » Il les poursuivait ainsi par tout le salon et Oscar me parut embarrassé par les attentions accablantes qu'avait pour lui son nouvel ami. Lucille était, je pouvais le voir, secrètement irritée de se voir autorisée à chaque instant par son père à prodiguer à Dubourg ses petites attentions qu'elle eût préféré lui montrer sans qu'on les lui suggérât. Quant à moi, je commençais à me fatiguer de la politesse et des airs protecteurs du petit recteur à la grosse voix. Nous éprouvâmes tous un certain soulagement lorsqu'on vint dire à M. Finch que sa femme désirait lui parler dans l'autre partie de la maison. Forcé de nous quitter, et prenant d'un air paternel la main d'Oscar dans les siennes, il nous fit un petit discours d'une voix qui fit trembler les tasses et les objets qui se trouvaient sur l'étagère de Lucille en les faisant vibrer à l'unisson avec le tonnerre qui sortait de son gosier. « Venez prendre le thé chez nous ce soir à 6 heures sans cérémonie, mon cher monsieur. Il faut vous relever le moral, monsieur Dubourg, en fréquentant une société agréable et en entendant un peu de musique. Lucille, ma chère, tu nous joueras un peu de piano ce soir pour faire plaisir à M. Dubourg et Mme Pratolungo t'imitera, j'en suis sûre. Nous allons rompre pour notre voisin la monotonie de Dymchurch. Nous finirons même par lui en rendre le séjour agréable. Comme dit le poète, le vrai bonheur ne se fixe jamais, il n'est nulle part et il est partout. Quelle admirable vérité et quelle source de consolation. Au revoir, mes amis. « Au revoir !» La vaisselle cessa de vibrer. M. Finch disparut, emporté par ses petites jambes fluettes. À peine avait-il tourné le dos que nous posâmes toutes deux à Oscar la même question. « Quel est le sujet de l'entretien que vous avez eu avec M. Finch ?» L'homme ne saurait satisfaire la curiosité féminine dans sa soif de détails. Une femme nous eut, à la place d'Oscar, rapporté non seulement la conversation elle-même, mais les plus menus détails de l'entrevue. Nous ne réussîmes à tirer d'Oscar qu'un simple croquis, pour ainsi dire, que notre imagination dut compléter. Oscar avait voulu récompenser la bonté du recteur en s'ouvrant à lui et en mettant ce ministre si cauteleux et si rusé en affaire dans ses secrets les plus intimes. Pour ne pas rester en arrière, M. Finch lui avait aussi ouvert son cœur en toute confiance. Il lui avait éloquemment dépeint la pénurie lamentable de l'église de Dymchurch et, en termes si touchants, l'état délabré dans lequel se trouvait cette antique construction, qu'Oscar, touché de compassion, avait tiré son livre de chèques et avait payé tout de suite sa cotisation pour restaurer l'ancienne tour ronde. Il s'entretenait encore de la susdite tour et de la souscription lorsque je leur avais ouvert la porte du jardin. En apprenant ces détails, je compris la raison de la conduite du recteur, aussi bien que si j'avais été dans sa peau. Il était clair pour moi qu'il avait, financièrement parlant, jaugé Oscar et qu'il avait jugé qu'en encourageant les relations des deux jeunes gens, il pourrait, selon son expression, lui en revenir de l'argent. Il avait sans doute lancé un ballon d'essai en parlant de la tour, ballon qu'il ferait suivre en temps et lieu par un appel plus direct à la bourse d'Oscar. Bref, le recteur en savait assez, après avoir bien sondé son jeune ami, pour flairer une augmentation de revenus dans le cas où les relations d'Oscar et de sa fille aboutiraient au mariage. Je n'affirmerai pas que Lucille en tira la même conclusion, mais ce que je sais, c'est qu'elle montra un certain malaise et qu'elle saisit la première occasion pour détourner de la conversation le nom de son père. Quant à Oscar, il était tout joyeux de s'être ainsi assuré ses entrées dans la maison. J'avais l'œil sur les deux jeunes gens lorsqu'ils se dirent adieu. Lucille serra avec force la main d'Oscar et je commençai à me demander sérieusement si je n'allais pas voir, au pas dont marchaient les choses, M. Finch paraître à l'heure du thé, revêtu de ses habits sacerdotaux, pour célébrer, entre la première et la seconde tasse, le mariage de son jeune ami avec sa fille. Rien ne se passa à notre petite réunion du soir qui fut bien digne d'intérêt. Je ne puis cependant passer sous silence la brillante toilette de Lucille et la mienne, toilette d'autant plus brillante que nous avions Mme Finch pour nous servir de repoussoir. Elle était parvenue, grâce à un effort suprême, à s'habiller à peu près à moitié. Sa toilette se composait d'une antique robe de soie verte à volant, flanquée de l'éternelle jaquette en mérinos bleu et portant, pour un œil exercé, les traces de toute une lignée de babies. « J'égare tous mes effets, me dit Mme Finch à l'oreille. J'ai le corsage de cette robe et je ne puis le retrouver. » Le recteur ne cessait de faire entendre sa grosse voix. Ce petit homme, aux manières pompeuses et à l'air paterne, parlait sans cesse en augmentant le diapason de sa voix. Les aînés des enfants, admis par faveur spéciale à cette petite fête de famille, mangèrent, nous dévisagèrent et bâillèrent à satiété. Puis ils finirent par aller se coucher. Tout le monde apprécia Oscar. Il conquit les bonnes grâces de Mme Finch uniquement parce qu'il était frère jumeau. Il est vrai qu'elle fut ensuite un peu désappointée en apprenant que la mère d'Oscar n'avait eu pour tous enfants que lui et son frère. Lucille, absorbée et muette de bonheur, savourait le plaisir, toujours nouveau pour elle, d'entendre la voix du jeune homme. Son imagination lui faisait trouver, dans ses accents chéris, la même variété que nous trouvons dans la physionomie d'une personne aimée. Dans la soirée, nous fîmes un peu de musique et je fus surprise d'entendre avec quel sentiment Lucille jouait du piano. C'était une vraie musicienne. Elle avait une finesse de doigté rare, même chez les virtuoses. Oscar était ravi. Enfin, notre petite soirée fut un vrai succès. Je m'arrangeai, au moment du départ d'Oscar, pour lui toucher un mot sur l'imprudence qu'il y avait à rester seul dans un endroit aussi isolé que sa maison. Je ne pouvais réussir à chasser de mon esprit les appréhensions qui s'étaient glissées lors de la découverte des deux coquins derrière le mur de la maison et qui me poussaient à lui conseiller de prendre quelques précautions avant que les métaux qu'il avait envoyés à Londres lui fussent réexpédiés par le fondeur. Il se chargea de me fournir lui-même un prétexte pour lui parler à ce sujet en tirant sa montre qui marquait minuit et en nous priant d'agréer ses excuses pour nous avoir retenus jusqu'à une heure aussi avancée, surtout pour la campagne. « Votre domestique vous attend, monsieur Dubourg !» lui dis-je en feignant d'ignorer qu'il n'en avait pas. « Voilà, dit-il en tirant une grosse clé, mon unique domestique passait 5 heures, heure à laquelle les gens de l'auberge quittent la maison. » Il nous serra la main, le recteur le reconduisit jusqu'à la porte. Il se remit à me parler de Lucille, mais je l'étonnai en lui parlant de nouveau et sans transition aucune du danger qu'il y avait à rester seul la nuit. « Croyez-vous, lui dis-je, qu'il soit prudent d'en agir ainsi dans une maison aussi isolée que la vôtre et sans domestique ?»« Je n'aime pas les figures étrangères, me répondit-il, et je préfère rester seul. » « Quand vous attendez-vous à recevoir vos plaques et à combien les estimez-vous »« Elles peuvent valoir entre 70 et 80 livres et elles m'arriveront cette semaine, je pense. »« Et vous aurez ainsi chez vous le métal précieux que représente cette somme ?»« Mais un voleur n'a qu'à le jeter au creuset pour détruire toute trace de son crime et échapper à la justice. » Oscar s'arrêta et me regarda. Il ne peut pas y avoir de malfaiteurs dans un endroit aussi retiré que celui que nous habitons. Oui, mais il y en a ailleurs et ils peuvent fort bien venir jusqu'ici. Vous avez donc oublié ces deux hommes que nous avons surpris rôdant aux abords de votre maison ? Oscar sourit. Je n'avais réussi qu'à lui rappeler le côté comique de cette rencontre. Ce n'est pas nous, c'est cette singulière petite fille qui les a surpris. si je la faisais coucher chez moi pour me protéger. Qu'en dites-vous ? Je vous prie de croire, lui répondis-je, que je ne plaisante pas et que je n'ai jamais vu de ma vie deux visages aussi patibulaires que les leurs. Au moment où vous m'expliquez la nécessité de refondre les plaques, la fenêtre était ouverte. Ils auront fort bien pu vous entendre dire que vous recevriez sous peu le métal précieux. Tudieu, quelle imagination ! Vous voyez deux passants mal vêtus qui ont poussé de Brighton une pointe jusqu'à Dymchurch et vous en faites une paire de bandits nourrissant le dessein de m'assassiner et de me voler. Vous vous entendriez avec merveille avec mon frère. Son imagination est comme la vôtre et prend toujours le mort aux dents. Ne riez pas, profitez de mes conseils, lui dis-je sérieusement, et ne vous obstinez pas à coucher seul au sable. Il était d'une gaieté folle et me baisa la main en me remerciant, avec une volubilité exagérée, de l'intérêt que je lui témoignais. « Bien, bien !» s'écria-t-il en ouvrant la porte. « J'aurai un compagnon. Je vais me procurer un chien. » Il partit. En lui faisant part de mes craintes, j'avais fait ce que je devais faire. « Et après tout, pensais-je, Oscar a peut-être raison, et c'est moi qui me serais trompée. »